France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, où en est la démocratie en France? Question posée à l'occasion de la publication de l'enquête de l'Observatoire de la démocratie qui réunit Via Voice, la Fondation Jean Jaurès et la revue Civique en partenariat avec France Inter. À lire les conclusions de cette étude, les Français seraient désormais 54% à considérer que la démocratie fonctionne bien en France, alors qu'il n'était que 36% l'an dernier. Toujours d'après cette enquête, les Français sont aussi 75% à penser que faire travailler ensemble élus de gauche et de droite permet de prendre de meilleures décisions pour le pays. Alors, l'année 2017 a-t-elle vraiment rebattu les cartes? Pour tout le monde, pas si sûr. On va voir que pour certains électeurs, il n'en est rien. Ceux qui ont voté Marine Le Pen ne sont en effet que 31% à penser que la démocratie fonctionne mieux. Et plus globalement, même si l'Assemblée a été largement renouvelée, on verra que 39% seulement de nos concitoyens se sentent désormais mieux représentés. D'ailleurs, n'oublions pas que l'abstention a atteint des sommets l'an dernier, notamment au moment des législatives, et que même si le moral des Français semble en hausse, ce n'est pas forcément le cas pour les perdants de la mondialisation. Alors que vous soyez plus optimiste qu'avant ou moins, que vous ayez des suggestions à faire, des expériences en matière de démocratie locale à partager, n'hésitez pas à nous appeler, d'autant que la réforme des institutions est toujours d'actualité. Pour parler de tout cela avec nous ce soir, François-Mickey Marty, le président de l'Institut Via Voice, Céline Braconnier, professeure de sciences politiques, co-auteure de plusieurs ouvrages, dont La démocratie de l'abstention ou encore Les inaudibles, sociologie politique des précaires qu'elle a co-dirigé avec Nona Maier. Et puis bien sûr, toujours avec nous, le photographe et cinéaste Raymond Depardon, qui fait aussi à sa façon des enquêtes de terrain sur ce que dit le pays. Pour nous joindre, toujours le même numéro, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel au Standard Inter, celui de Bernard qui nous appelle de Dole dans le Jura. C'est bien ça, Bernard?
Oui, tout à fait.
Bonsoir à vous. Oui. Bienvenue à vous. On vous écoute. Ben,
merci déjà merci pour vos émissions qui sont absolument superbes, c'est vrai. Et puis encore, je pèse mes mots. Alors, je vous téléphone. Bon, j'ai 68 ans, je suis en retraite. Moi, je trouve quand même, je sais pas, c'est des sondages un petit peu, je sais pas, je trouve ça quand même assez bizarre. En un an, que ça remonte autant que ça pour, au niveau pour la démocratie. Moi, j'ai voté, j'ai tout le temps depuis que j'ai voté, c'est-à-dire 21 ans, à l'époque c'était ça. J'ai loupé aucune élection, mais moi je trouve que c'est totalement faux, c'est faux. Puis en plus, la personne que j'ai écoutée tout à l'heure, là, qui est invitée dans votre studio, dit que c'est par rapport aux dernières élections. Qui me rappelle quand même combien il y a eu d'abstention. Moi j'ai toujours voté, je me cache pas, je vote France Insoumise. Moi je veux dire, je suis en retraite, je touche 1000 euros par mois. Ben moi je sais pas, moi alors on va dire la liberté des uns commence ou celle des autres commence. Ou la liberté des uns s'arrête ou celle des autres commence. Je pense que c'est ça moi. Moi je suis totalement en porte-à-faux sur ça. Moi je dis que c'est pas vrai, c'est impossible ça. Impossible.
Eh bien Bernard, merci.
Comment les Français peuvent changer d'une année sur l'autre en pourcentage comme ça, mais comment?
Eh bien, on va poser la question à celui qui a réalisé cette enquête. Merci Bernard hein, de nous avoir appelé. C'est une belle introduction, une belle entrée en matière. Accusé François-Mickey Marty, levez-vous.
Je me lève, ça ne se voit pas, mais je me lève. Je bats ma coupe.
Les choses auraient-elles autant changé? Alors, on va dire, c'était pas il y a un an exactement, c'était encore en septembre 2016,
oui,
la précédente enquête,
2016,
c'est ça?
Oui.
Ce baromètre de la démocratie?
Oui, et puis depuis le début des années 2000, on peut dire, hein, les choses n'allaient pas très bien. Bernard a raison, lorsqu'on dit que 54% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien, ça veut dire que 46% estiment qu'elle ne fonctionne pas bien.
Donc, c'est une majorité, mais c'est pas une majorité écrasante,
voilà.
On va dire.
Ce qui est bon, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de choses. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'idée qu'une amélioration est possible. C'est-à-dire que depuis au moins le début des années 2000, il y a une sorte de fatalisme. Et notamment l'idée selon laquelle, pour que les choses changent véritablement dans ce pays, il fallait peut-être changer de type de régime, changer fondamentalement les règles du jeu démocratique. Et l'un des éléments qui est frappant à la lecture de cette enquête, alors bien sûr qui émane prioritairement des électeurs d'Emmanuel Macron, d'une partie des socialistes et d'une partie des sympathisants LR, c'est tout à fait juste. L'un des éléments majeurs qui émane de cette enquête, c'est l'idée selon laquelle précisément l'élection en elle-même permet de changer des choses. C'est ce qui est c'est le grand tremblement de terre, d'une certaine manière, de l'année dernière.
Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre politique et démocratie, c'est ça?
Il ne faut pas confondre politique et démocratie. Ça veut dire que, quand même, le jeu politique a été modifié, ça veut dire qu'on a un gouvernement d'un nouveau type, ça veut dire qu'on a des parlementaires nouveaux. Une majorité aussi des personnes qu'on a interrogées nous disent, avec ces parlementaires nouveaux, on a des nouveaux visages à l'Assemblée nationale. La nature des débats est aussi nouvelle. Avant, on avait des débats entre la gauche et la droite. Maintenant, voilà qu'on a d'autres types de débats, même si les débats entre la gauche et la droite existent toujours. Donc, des choses ont changé. Et donc, je crois que c'est cet élément-là qui est frappant, à savoir que le bulletin de vote a pu être utile. Voilà. Alors, bien sûr, à côté de ça, il y a tous les mécontents, tous les abstentionnistes, tous ceux qui ont des frustrations, des rancœurs, et c'est légitime. Donc il ne s'agit pas de dire, et je pense que c'est vraiment une erreur, et je pense qu'il est très important d'insister là-dessus, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, dans notre, comme vous le disiez tout à l'heure, dans notre meilleur des mondes démocratiques. Tout ne va pas bien, bien sûr, et puis la démocratie est toujours un horizon à améliorer, c'est certain. Mais il s'est passé quelque chose.
On va peut-être juste quand même donner une précision, puisqu'on s'appuie sur une enquête.
Oui.
Dans quelles conditions elle a été réalisée, auprès de combien de personnes elle a été réalisée?
Oui.
C'est important, François-Mickey Marty.
Oui, alors c'est une enquête qui a été réalisée fin décembre 2017, là, il y a peu de temps, auprès d'un échantillon de 1000 personnes qui est représentatif de la population française selon la méthode des quotas. Voilà, on a la chance d'avoir des comparatifs exactement à l'identique, c'est-à-dire que les mêmes questions ont été posées en 2016, en 2014, donc les choses sur lesquelles on enregistre des changements sont significatives.
Alors on va revenir évidemment tout au long de cette émission sur les résultats de cette enquête et notamment sur le ressenti différent selon l'appartenance politique, parce que on l'entendait bien, Bernard nous disait il est France Insoumise, et c'est vrai que selon qu'on est un électeur d'Emmanuel Macron ou un électeur de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Mais Céline Braconnier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Un petit mot quand même de Bernard évoquait l'abstention quand même aussi,
oui.
Hein, et
oui,
ça c'est votre
raison.
Champ d'action, donc oui. J'avais envie que vous réagissiez à ce que disait Bernard.
Oui, moi je partage un tout petit peu le scepticisme de Bernard hein, sur le fait qu'il y aurait eu un changement profond dans le pays de perception de l'utilité du vote ou de perception de la démocratie. Je pense que on n'a pas tous les mêmes outils pour essayer d'appréhender comment se porte la démocratie. On sait très bien que par le biais des sondages d'opinion, on a du mal à atteindre des gens qui se sont abstenus largement. Hein. On a battu des records historiques d'abstention, puisqu'elle atteint 57% pour les dernières législatives.
Et une abstention politique aussi.
Et une abstention politique qui ne constitue pas la majorité de l'abstention, très très loin de là. Les études dont on dispose aujourd'hui, qui sont des études très solides, qui ne reposent pas sur des déclarations, qui reposent sur des données INSEE, de l'analyse des pratiques réelles, montrent qu'on n'a jamais eu autant d'inégalités face à la participation électorale, et que les gens qui se sont abstenus en 2017 sont beaucoup plus qu'avant encore les moins riches, les moins privilégiés, les moins diplômés, les plus jeunes de nos concitoyens. Donc il n'y a pas eu une égalitarisation, le terme n'est pas adapté, mais il n'y a pas eu une égalisation de l'abstention, il n'y a pas eu un partage de l'abstention, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois. Il y a au contraire une moindre participation des plus fragiles, qui sont aussi les plus sceptiques vis-à-vis de la démocratie. Or, on sait que nos concitoyens qui s'abstiennent sont aussi ceux qu'on a du mal à percevoir à partir d'un outil comme le sondage, parce que ce sondage qui est intéressant par ailleurs, pose tout un tas de questions hyper précises, avec des réponses sur des choses un peu techniques concernant la vie politique, et on voit mal comment des gens qui sont pas passionnés par la politique, ou qui ont du mal à se déplacer même une fois pour aller voter, répondraient à un sondage de ce type. Ce sont les mêmes personnes qui s'abstiennent, qui se tiennent en retrait, qui sont sceptiques, qui sont désenchantées et qui ne participent pas à ces enquêtes par sondage. Donc il faut considérer qu'elles sont effectivement révélatrices d'une partie de notre population, mais qui a un rapport à la politique très particulier et qui sont les plus prédisposées à finalement suivre le changement, regarder ce qui se passe d'assez près. Mais il y a les autres, ce que les sondages n'atteignent pas et que d'autres modalités d'approche permettent d'appréhender.
D'autres modalités d'approche, comme les films de Raymond Depardon, qui est donc toujours avec nous ce soir. Raymond Depardon.
Moi, j'avais l'impression que la parité étant un peu mieux respectée dans les conseils municipaux, ça commence à jouer. L'effet, peut-être.
Ah, ça, alors, c'est du plus long terme, alors.
Oui. Non, mais on a beaucoup. Bien sûr, là, vous allez me dire, je vais prendre la défense de François Hollande puisque j'ai fait sa photo. Et c'est un peu logique.
La photo,
mais c'est vrai qu'il a quand même... Bon, c'est un socialiste, effectivement. On sait comment ça marche, les socialistes. Mais il y a quand même un respect des choses comme ça. Et c'est vrai que peut-être les deux, trois... nouvelles lois qui ont été sur les conseils municipaux où les femmes sont à égalité aux hommes, ça a fait ses effets. Ça prend du temps tout ça, et c'est ça que peut-être qui amène peut-être une certaine sensation, mais réalité aussi, moi pour moi, de démocratie quand même. Bon, moi je trouve c'est important parce que au fond la femme française, on en parle beaucoup en ce moment, elle a un peu plus son mot à dire. Je le vois, je le sens. Comme ça, en ville comme à la campagne, comme en banlieue. Et c'est vrai qu'aussi une nouvelle génération arrive et fait que quand même, peut-être que c'était avant, les gens qui avaient cette sensation, cette frustration sur la démocratie venaient peut-être de ça, du fait que les femmes n'avaient pas leur mot à dire dans les gens qu'on oublie un peu. Elles se taisaient, elles disaient rien, elles parlaient pas. On le sait très bien à table, partout, elles disaient rien. Puis maintenant, comme ça, la parole s'est libérée.
Absolument. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Jean-Luc qui est en ligne. Bonsoir, Jean-Luc.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais vous faire part de mon analyse. Je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite par le politologue, enfin, ou par la personne de la revue civique. Je pense qu'en effet, le système politique était complètement à bout. Donc, pour ne pas changer le système, il fallait tout changer, comme l'ont dit des aristocrates dans le film Le Guépard. Tout changer pour que rien ne change. Il fallait changer le superficiel, donc l'apparence, mais surtout pas le fond. C'est pour ça que je pense pas que la démocratie évolué, bien au contraire. Et je pense que le changement est vraiment un changement en trompe-l'œil. Il fallait mettre en place la jeunesse, faut bien le dire aussi, une partie de cette jeunesse, une partie de la jeunesse, celle qui utilise le système, avec le concept qui est toujours en place, c'est-à-dire, pour beaucoup d'analystes, et particulièrement des analystes économiques, la démocratie égale le libéralisme. Les hommes et les femmes ont été changés, comme vous le dites, et encore faut-il le dire partiellement, regardez le ministre de l'économie, mais pas les choix politiques. On peut regarder les ordonnances, toujours plus de précarité pour les travailleurs, plus de libéralisme pour le patronat, la suppression de l'ISF, etc. Et je voulais dire aussi, heureusement qu'on a encore France Inter, mais des médias, je dirais des médias vraiment complaisants, pour ne pas dire aux ordres, mais plutôt complaisants avec le pouvoir qui est souvent en place, pouvoir socialiste il y a quelques mois, et maintenant pouvoir macronien. Des invités qui représentent souvent des opinions relativement proches. Regardez les émissions C'est dans l'air, 20 minutes. Parfois les invités de France Inter aussi. Surtout dans les analyses. Regardez bien les analyses, particulièrement les analystes économiques. Pas beaucoup de contradictions. Des analyses souvent relativement proches et toujours en faveur du libéralisme, que ce soit le libéralisme un peu socialisant ou le libéralisme, je dirais, vraiment de droite.
Merci Jean-Luc.
Voilà. Alors, donc je pense que la démocratie, franchement, n'évolue pas. Elle stagne, bien au contraire. C'est vraiment un trompe-l'œil. Je vous remercie en tout cas.
Merci Jean-Luc pour cet appel. François-Mickey Marty, est-ce que il y a eu, on a renversé la table, il y a eu de grands changements en 2017, mais effectivement, comme le dit Jean-Luc, est-ce que c'est pas un trompe-l'œil tout ça? Quand on voit par exemple l'Assemblée complètement renouvelée, mais très peu de titulaires d'un CAP ou d'un BEP, je voyais 5 personnes, très forte proportion de diplômés des grandes écoles. Est-ce que, en fait, on n'a pas conforté le système quelque part?
Bien sûr. Alors, bon, on a commencé à le dire, effectivement, le chantier reste encore très ouvert. Néanmoins, les choses ont changé, y compris à l'Assemblée nationale. La proportion de femmes a augmenté de manière très considérable. Ensuite, il y a des attentes qui restent majeures. Alors bien sûr, pour l'aménagement de notre démocratie dans sa forme institutionnelle, le nombre de parlementaires, les mandats, etc. Et puis, alors c'est là que le travail de Raymond Depardon est intéressant, des formes élémentaires de la démocratie. C'est-à-dire être entendu, l'ensemble des rencontres que l'on peut faire montrent que ce besoin d'être entendu est prépondérant, ce qui veut dire qu'il faut écouter, il faut que quelqu'un écoute. Et puis, j'allais dire, la culture du débat. du débat argumenté, respecter l'opinion de l'autre. Alors là, nous menons un échange où nous nous écoutons, ce qui est assez extraordinaire, mais ce n'est pas une culture partagée par tout le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois, au cours des années qui viennent, cette implication dans le débat, l'idée de retrouver la confrontation des opinions avec des arguments sera quelque chose qui sera fondamental. Et la revue civique en particulier, qui est l'un des partenaires sur nos démarches de réflexion, va organiser des débats sur Internet, mais aussi des débats de rencontres de citoyens dans des villes, dans des régions, en région Aquitaine, en région Hauts-de-France, en Corse, pour nourrir cette confrontation d'idées. Alors, les médias le font bien évidemment, mais on a vu aussi se développer, notamment à la faveur des réseaux sociaux, l'idée selon laquelle il est possible de rejeter l'opinion de l'autre s'il en est en désaccord. D'une certaine manière, on le voit aussi, j'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines avec un débat de citoyens, un monsieur qui écoute une dame exposer son opinion, le monsieur lui dit « écoute, tais-toi ». D'abord il la tutoie sans la connaître et puis il lui dit « tais-toi ». Ce principe. Alors là nous sommes très loin de Raymond de Pardon. Je suis ravi que Raymond de Pardon soit là, parce que dès lors que l'on dit à l'autre « tais-toi » et que l'on ne l'écoute pas, ça a l'air de rien, mais c'est le fondement même, me semble-t-il, d'une démocratie. Enfin, juste un dernier mot, parce que Céline Braconnier n'a pas manifestement toute la connaissance des études d'opinion. Les abstentionnistes sont dans les études d'opinion et toutes les intentions de vote qui ont été faites à la présidentielle ont indiqué des proportions d'abstentionnistes qui étaient tout à fait conformes aux proportions réelles que l'on a enregistrées lors des élections. Donc, bien sûr, il y a des abstentionnistes dans les enquêtes d'opinion depuis très longtemps, et je crois que c'est aussi le métier des instituts de sondage de veiller à la présence de ces abstentionnistes dans les enquêtes d'opinion.
Céline Braconnier.
Je ne vais pas me lancer dans un débat technique. On sait bien qu'il y a des redressements qui permettent de...
Non, mais excusez-moi, c'est faux. Il n'y a aucun redressement sur une enquête comme celle-ci.
Il faut s'appuyer sur l'abstention, il faut s'appuyer sur le recueil des pratiques, donc sur les listes d'émargement et donc sur les données de l'INSEE, qui sont malheureusement disponibles quelques mois après les élections, donc qui demandent un tout petit peu de patience, mais qui permet de faire une sociologie de l'abstentionnisme beaucoup plus précise que celle que permettent des sondages avec des échantillons notamment réduits.
Pour en revenir peut-être, Céline Braconnier, à ce que disait Jean-Luc, qui a l'impression qu'on a mis le couvercle sur un système, on a changé le jeu entre droite et gauche, mais fait en sorte que le système quand même se perpétue. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Il a donné son opinion. Il a fait comme les personnes qui ont répondu au sondage. Moi, je reprendrai sur cette idée d'organisation des débats, de diffusion de la parole et du problème que vous soulignez, du manque d'écoute. Ça nous renvoie à la question de l'école et de l'éducation à la citoyenneté, qui est absolument centrale. Hein. Je pense que beaucoup plus qu'en quelques mois d'exercice du pouvoir, on peut changer la démocratie, on peut la revivifier, et c'est sans doute un des grands défis qu'auront à relever les membres du gouvernement actuel pour les prochaines élections, notamment pour préparer les prochaines élections. On peut revivifier la démocratie en tablant sur le temps long et en s'adressant à tous les enfants de tous les milieux et en les entraînant notamment à exercer, à faire des débats et à prendre la parole dans le cadre des débats, à respecter la parole de l'autre, distinguer l'anathème de l'écoute, de l'argumentation. Et ça, c'est un vrai questionnement. L'école a toute sa place à prendre dans la construction du citoyen, ce qui n'a pas été complètement le cas jusque-là. Hein, ça a été, c'est un sujet tabou à l'école, la politique. Et du coup, il y a eu quand même une certaine forme de timidité qui a laissé l'école un peu en dehors depuis quelque temps de cette grande cause nationale qu'est la revivification de la démocratie et la démocratisation de l'accès à la démocratie.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon avis, ma question.
Vous êtes à Saint-Nazaire?
Oui, je suis à Saint-Nazaire.
Alors dites-nous tout.
Alors d'abord, je voulais dire à Jean-Luc merci, l'auditeur qui est passé avant, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour moi, la démocratie, maintenant, c'est le peuple qui l'a, parce que on n'a plus rien à attendre des politiques qui sont sur des valeurs de compétition, de compétitivité, qui ont des dégâts collatéraux énormes que les gens vivent tous les jours sur le terrain, et ça, ils veulent pas l'entendre. Moi, ce que je vois, c'est que tous les courants alternatifs, et la vraie démocratie tient compte des gens qui ne votent pas, des gens qui votent blanc, et de beaucoup d'autres. Or, une démocratie qui ne tient pas compte de ça, ce n'est pas une démocratie pour moi. Les vrais courants alternatifs et de pensée du changement, ils sont là, et on n'en tient pas compte. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est aussi qu'un institut de sondage ou d'étude aille voir les gens qui ne votent pas, les gens qui sont dans l'abstentionnisme, et les questionner sur quel type de société on voudrait. Et enfin, je crois que les vrais acteurs du changement, ce sont les gens du peuple maintenant.
Merci Catherine pour cette réflexion. Qui veut répondre? Peut-être François-Mickey Marty et ensuite Raymond Deux. Pardon?
Oui, parce que c'est très juste. C'est-à-dire que c'est même une révolution dans notre culture politique. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, c'était l'univers politique qui transformait le monde, qui créait l'avenir. Et aujourd'hui, alors, nous allons voir des personnes de tout profil et de toute sensibilité, de tout comportement politique. Aujourd'hui, ce qui est très frappant, en effet, c'est que la force des citoyens peut être à l'œuvre pour transformer le monde. Et aussi, on attend des entreprises, parce qu'on estime qu'elles ont des moyens d'action, etc., qu'elles transforment le monde. Autrement dit, l'idée de créer le monde de demain, ce qui a été pendant très longtemps, pendant deux siècles quasiment, l'apanage quasiment exclusif du champ politique, aujourd'hui est totalement diversifié. Ça relève des citoyens, ça relève de l'entreprise, et en effet, ça rend le travail du et des responsables politiques difficile. Néanmoins, quand même, méfions-nous, c'est-à-dire que la définition de l'intérêt général en dehors du champ politique est compliquée. Donc si on délègue uniquement à des entreprises la mission de construire l'avenir, ça pose des problèmes sur la manière dont on peut trouver des voies qui, dans lesquelles chacun peut se reconnaître, ou tout au moins le plus grand nombre.
Raymond Depardon.
Oui, mais moi, par exemple, il y a une chose qui est importante, c'est le service public. Bon, il y a l'éducation, comme je viens de rappeler, et le service public, la télévision, la radio. Moi, je crois que la radio fait son rôle, mais la télévision ne le fait pas. Moi, je suis obligé de me supplier les chaînes pour faire des films. J'ai des miettes. On me méprise comme ça. Je dis oui, parce que de pardon, comme ça, tout ça. On est combien de documentaristes, auteurs, je parle d'auteurs, hein, une dizaine à tout casser. Tout est de la fiction. Tout le monde, l'abrutissement tous les soirs à la télévision. C'est ça un peu. Peut-être que, alors on laisse bien sûr la région sur une chaîne, la 3, là, un petit peu laisser les nouvelles régionales. Et il faut vraiment une réforme du service public. Parce que c'est comme ça qu'on va progresser, que ces gens vont se sentir concernés, il va y avoir un dialogue, il va y avoir un partage. C'est pas forcément faire des grands débats, mais c'est de faire des enquêtes. Il y a envoyé spécial, il y a des choses comme ça. Élise Lucet, elle fait des choses formidables. Il y en a quelques-uns, mais vraiment, il y a pas assez de services publics. À l'anglaise, je sais pas. À l'anglaise, à l'espagnol, à l'américaine, je sais pas. Mais en tous les cas, que nous donner un peu, voilà, que moi, je suis obligé de faire un film tous les 3 ans et on me dit encore, vous en faites encore un. Ouais, on en a marre de vos films. Bah, c'est pas normal. Moi, j'ai fait 3 films sur les paysans, on a fait des films sur la justice, un juge des libertés, voilà, et on est obligé d'aller chercher, de supplier d'avoir de l'argent. C'est pas normal. Moi, je veux pas beaucoup d'argent, je veux du temps, et voilà, et je suis pas le seul. Il faut donner un petit peu, et c'est un petit peu le rôle de l'audiovisuel et du cinéma, voilà, d'arrêter de faire un petit peu le meurtre à la Ciotat, quoi. Ça suffit tous les soirs, là, comme ça, et ça mène rien. Alors, bon, je veux bien croire, moi aussi, je suis spectateur, je veux bien me divertir, mais peut-être qu'il y a une réforme un peu de ce service. C'est pas Delphine Ernotte, parce que Delphine Ernotte, elle me soutient. Voilà, et donc je tiens à le préciser.
Voilà, messieurs, mesdames, ne laissez pas des miettes à Raymond Depardon, par pitié. Céline Braconnier.
Non, je voulais rebondir sur ce que disait madame en disant qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique. Et puis, alors c'est son avis évidemment, et il a beaucoup de valeur, mais dire que c'était pas exactement le message qu'on pouvait lire à travers ce qui s'est passé au cours de ce printemps électoral. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait une très forte abstention. Mais sur les 4 tours de scrutin, il faut rappeler qu'il y a quand même 86% des gens inscrits sur les listes électorales qui ont voté quand même au moins une fois. Et c'est pas la même chose que s'ils n'avaient pas voté du tout. Il y a quand même l'élection présidentielle qui reste capable de mobiliser assez massivement les Français et qui montre que, quelque part, les gens sont prêts à avoir de l'espoir. Donc, moi, je ne pense pas que ce que pense la dame qui a plus rien à attendre des politiques, ça soit généralisé. Au contraire, je pense que les gens, au regard de la difficulté de leur situation, continuent tout de même, finalement, à vouloir participer et nous incitent à poser autrement la question de la participation. On devrait se dire, au regard de la situation en 2017, de la situation des forces politiques et de la façon dont se sont déroulées les campagnes, comment se fait-il qu'il y ait encore 86% des inscrits qui quand même se soient déplacés au moins une fois? C'est bien qu'il y a beaucoup d'attentes pour que cette démocratie-là, elle évolue et qu'elle soit capable de remobiliser plus massivement et de façon plus régulière.
Voilà, des messages aussi sur franceinter.fr avec pas mal de gens qui nous disent ok, démocratie, c'est bien gentil, mais quand on voit que le gouvernement prend des ordonnances, c'est un peu le côté circulé, il n'y a rien à voir. Question François-Mickey Marty sur les attentes peut-être aussi, parce que vous avez posé les questions aux personnes interrogées. Moi j'ai noté par exemple que les gens veulent continuer à militer, à pétitionner, manifester, ça ils y croient plus du tout. Sinon quelles sont les principales attentes, parce qu'il va y avoir une réforme normalement des institutions, elle a été promise par Emmanuel Macron, l'Assemblée y travaille, le Sénat aussi.
Oui, alors effectivement se dégagent quelques attentes assez claires. D'abord l'idée effectivement de revoir le schéma et le mode de fonctionnement du Parlement et des parlementaires, alors réduire le nombre de parlementaires, et Emmanuel Macron a annoncé une réduction d'un tiers, 30% du nombre de parlementaires, donc c'est quelque chose qui est assez ambitieux, la réduction des mandats, du nombre de mandats, de la durée des mandats, des choses plus originales qui existent notamment aux États-Unis, avec des succès plus ou moins variés, à savoir concrètement l'idée de pouvoir faire des pétitions, et d'imposer à l'exécutif de se prononcer, à minima, sur des pétitions recueillant un certain nombre de signatures. C'est-à-dire un lien beaucoup plus fort entre les citoyens et le pouvoir politique. On n'est plus uniquement là dans la participation, on est dans une forme de contrat entre les citoyens et le pouvoir politique. Alors pour l'anecdote, ce dispositif existe aux États-Unis, les Américains peuvent établir des pétitions et puis... la Maison-Blanche est tenue de répondre à quelque chose. Bon, ça donne parfois lieu à des attentes inattendues, telles que l'expulsion de Justin Bieber au Canada, ou bien la création de l'étoile de la mort de Star Wars. Donc la Maison-Blanche doit répondre à ça aussi. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a...
En tout cas, François de Rugy a repris à son compte cette proposition hier. Oui. Il a bien dit qu'il voulait permettre aux citoyens d'imposer des débats.
Oui.
Président de l'Assemblée.
Je crois qu'on va... Alors, les formes concrètes sont très variées. On a des aspirations très variées sur la mise en œuvre des réformes démocratiques. On va vers une combinaison entre notre démocratie représentative telle qu'on la connaît depuis le 19e siècle, une démocratie plus participative, notamment dans les villes, dans les communautés d'agglomération, localement, et puis une démocratie qui se veut, dans l'esprit des citoyens, plus contractuelle. Ça embête un peu les élus, on comprend bien pourquoi, mais il y a des pays dans lesquels ça existe, sous des formes différentes. Je crois qu'on va vers cette convergence de modèles démocratiques.
Céline Braconnier.
Oui, alors que les citoyens soient en demande de liens plus forts avec ceux qui les représentent, j'en suis tout à fait convaincue. Le sentiment de ne pas être représenté, le sentiment que les professionnels de la politique représentent un monde à part, inaccessible, qui ne comprend pas la réalité des difficultés du quotidien, c'est un élément qui explique le désenchantement vis-à-vis de la politique. Donc, toutes les formes qui contribueront à diversifier les liens et à recréer du lien entre le terrain, la vie quotidienne des citoyens, les citoyens eux-mêmes et leurs représentants, quelles que soient les assemblées, sont des éléments positifs. Sur la démocratie participative, il faut quand même rappeler qu'on a tout un tas de territoires et d'assemblées qui pratiquent aujourd'hui des formes de démocratie participative. Il y a beaucoup d'élus qui se sont lancés au cours des 20 dernières années dans ce type de dispositif et que ce sont des dispositifs qui sont très sélectifs socialement. C'est encore beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est loin de la politique d'aller à une réunion et d'oser prendre la parole que de franchir le dimanche quelques kilomètres pour aller déposer un bulletin de vote. Hein, donc il faut faire attention, la démocratie participative, ça peut aider certaines catégories qui s'expriment déjà politiquement par d'autres biais à diversifier leur mode d'expression. mais ça contribue aussi à multiplier les manières qu'ont certaines catégories sociales qui déjà réussissent à se faire entendre de le faire autrement. Et ça ne résout pas le problème de ceux qui sont un peu désenchantés, restent à l'écart, gardent l'espoir, mais ont besoin qu'on les aide à s'exprimer, à prendre la parole et à se faire entendre.
Et à ce sujet, on a un appel d'Anthony qui nous appelle de Rennes et qui a une suggestion à faire, suggestion qui rejoint votre enquête, François-Mickey Marty. Bonsoir Anthony, bienvenue à vous, vous êtes sur l'antenne d'Inter.
Merci Fabienne, merci d'avoir pris ma question.
C'est clair ce soir, mais c'est pas grave.
Pardon Claire, excusez-moi. Donc j'ai trois idées à soumettre, ça peut durer une minute, ne vous inquiétez pas. Que pensez-vous de l'idée de reconnaître réellement le vote blanc, c'est-à-dire le blanc est un candidat qui, s'il finit premier, il renvoie alors les Français et les partis devant renvoie les Français aux urnes et les partis devant leurs obligations de convaincre. Dans la même idée, que pensez-vous de l'idée d'imposer le vote, c'est-à-dire par une taxe ou une subvention sur la feuille d'impôt? Et enfin, que pensez-vous de l'idée que l'on reconnaisse l'élection que à partir de 50% de participation, là encore pour remettre les partis devant leurs obligations de convaincre? Ces trois idées qui, prises simultanément, réalisent une révolution démocratique pour sauver la 5e République.
Carrément, voilà. Carrément. Allons-y. Merci beaucoup Anthony. François-Mickey Marty, vous avez posé certaines de ces questions.
Oui, alors
dans votre
ce
enquête.
Sont des idées en effet qui sont, d'ailleurs qui recueillent un succès croissant, notamment l'idée du vote obligatoire. On a 45% des Français aujourd'hui qui sont favorables. L'idée de la reconnaissance du vote blanc, elle est ancienne aussi. Ce sont des éléments qui peuvent faire avancer les choses, qui existent d'ailleurs dans certains pays, sur le vote obligatoire, en Belgique notamment. Je crois qu'il y a des éléments aussi peut-être plus fondamentaux à développer, et pour rejoindre ce que disait Céline Braconnier sur le lien entre les citoyens et la démocratie. Moi, je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré qui m'a dit « Il y a la démocratie, c'est ce qu'on voit dans les médias, et il y a par ailleurs ma vie. » Autrement dit, dans son esprit, la démocratie était un monde représenté dans les médias, et lui-même s'estimait en dehors de cela. Donc on voit bien qu'il y a, au-delà des contraintes, vote obligatoire, vote blanc, pourquoi pas, la nécessité de réembrasser une partie de la population qui ne se projette plus suffisamment. Il y a un élément qui manque cruellement, je pense, dans notre démocratie, qui est la projection dans l'avenir, dans le long terme. On pourrait imaginer des assemblées de citoyens qui réfléchissent non pas à l'élection prochaine, qui est très importante, certes, les européennes ou les prochaines élections présidentielles, mais sur la France pour nos enfants. Sur la manière dont on va vivre ou vieillir dans 15 ans ou dans 20 ans, sur toutes les nouvelles technologies qui vont nous bouleverser, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Et avoir au fond une chambre véritablement de débat, pas sur des choses uniquement politiques, mais sur l'ensemble des grands enjeux qui vont nous concerner dans nos vies quotidiennes.
Alors je vais vous presser un petit peu parce qu'il est déjà 54. Pressons. Raymond Depardon, comment vous réagissez à tout ça?
C'est difficile, c'est vrai que je crois qu'on a sous-estimé la mondialisation, quoi. Moi qui voyage beaucoup, je vois bien que le choc de la mondialisation a été très fort. Tout le monde, intellectuel, spécialiste, ont sous-estimé. Elle est là depuis 50 ans, la mondialisation, 30 ans, mais elle est violente. Et effectivement, personne n'avait prévenu tout ce territoire. Et les gens, en fait, voilà...
Et du coup, la démocratie s'est diluée là-dedans.
Oui, je crois. Moi, je crois qu'il faut toujours voter. Moi, j'ai envie de dire, il faut voter, quoi. Voilà. Alors, on a quand même du choix, quand même. Ces gens qui sont France Insoumise, bah voilà, ils ont, bien sûr, voilà, ils ont voté. Front National, il faut voter. Voilà, on a quand même du choix, quand même. Moi, je pense qu'on est quand même dans un pays qui reste démocratique parce que on a du choix. Alors, si on vote pas, effectivement, le problème se pose. Alors, pendant. Tenir en compte le fait de ne pas voter, c'est un peu paradoxal, quoi, parce que ça peut paraître bizarre, quoi.
Céline Braconnier.
Moi, je pense qu'une démocratie qui est obligée d'instaurer le vote obligatoire, hein, alors qu'elle a institué le suffrage universel masculin en 1848, c'est vraiment une reconnaissance de grandes difficultés. Avant d'arriver à cette solution-là, il y a plein de réformes à faire qui peuvent contribuer à redonner sens à la politique pour plus de citoyens et réalimenter la croyance en les vertus de la représentation politique.
Intégrer le vote blanc dans les suffrages exprimés, par exemple, vous en dites quoi, vous ?
Oui, bien sûr que c'est problématique le fait d'invisibiliser comme ça le vote blanc et d'avoir fait croire en plus il y a quelques années par une toute petite réforme qui modifie la manière dont est comptabilisé le vote blanc que ça allait changer la donne. Bien évidemment qu'il faudrait reconnaître le vote blanc, mais attention, hein, la sociologie du vote blanc n'est pas celle de l'abstention. C'est pas en reconnaissant le vote blanc qu'on fera rentrer dans la participation constante massivement les citoyens qui restent à l'écart. Je voudrais juste te dire que parmi des éléments qui nous disent qu'aujourd'hui la démocratie bouge, il y a quand même quelque chose qui apparaît et qui n'a pas fait l'objet d'un questionnement dans l'étude de Via Voice, et c'est normal parce que c'est assez récent, c'est tout ce qui se passe autour de la prise de parole d'un certain nombre de femmes au cours des dernières semaines, luttant contre les violences faites à certaines d'entre elles.
Bah alors,
là, on a de la démocratie, permettez-moi, là on a de la démocratie en train de se produire, qui utilise des canaux extrêmement nouveau aujourd'hui, qui produit tout un tas d'échos dans des milieux où on a l'habitude que le politique passe par leur représentation. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi qui doit être souligné. La démocratie, c'est aussi ça, c'est aussi ceux qui protestent, qui se lèvent, qui disent non. Et les femmes le font en ce moment et c'est plutôt réconfortant.
François-Mickey Marty.
Oui, ça renvoie à cette idée dont on parlait tout à l'heure, qui me paraît essentielle, qui est l'écoute précisément. La prise de parole est d'autant plus facile qu'on a une posture d'écoute. Alors, je ne sais pas pourquoi, l'écoute aujourd'hui est négligée. Écouter quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire. Il y a un magnifique livre de Plutarque pour les amateurs qui s'appelle « Comment écouter ?» Et Plutarque nous explique que pour bien vivre, le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Voilà.
Voilà, ce sera à méditer, ce sera pour vous le mot de la fin. Moi, j'ai noté une chose dans votre étude et je crois que c'est important. Il y a quand même 63% des personnes interrogées qui pensent que la démocratie pourrait être remise en cause. Ça, c'est quand même spectaculaire dans la France de 2018. Raymond Depardon, vous qui avez beaucoup bourlingué et vu les pays où il n'y a pas de démocratie du tout, ça doit interpeller.
Ben oui, bien sûr, on est surpris parce que... Moi, je suis un peu d'accord. J'ai l'impression que il y avait un peu de désenchantement il y a quelques années, que ça tend à disparaître. J'ose espérer. Je reste optimiste. Donc la démocratie, elle est quand même là. On a une chance quand même. Mais je veux pas faire ce discours. On a une chance, etc. On a des beaux hôpitaux, etc. Non. C'est vrai que quand même. Je pense que les Français sont profondément des démocrates. C'est peut-être pour ça qu'ils sont exigeants.
Ce sera le mot de la fin pour vous. Merci beaucoup Raymond Depardon. Céline Braconnier, vous avez 20 secondes vous aussi pour conclure au-delà du fait qu'il faut écouter tout le monde, y compris les femmes.
Non, moi je dis qu'il faut évidemment investir ce champ de la politique. Il faut redonner confiance aux citoyens. Ça passe par des formes d'exemplarité des nouveaux élus et ça passe par un travail éducatif. Ça passe par le questionnement du rôle de l'école. On ne peut pas laisser une partie des citoyens à l'écart de la démocratie et par ailleurs ça passera par l'investissement continu des réseaux sociaux par les jeunes, notamment sur des sujets comme ceux dont on parle en ce moment avec les femmes.
Merci Céline Braconnier, merci beaucoup François-Mickey et Marty pour cette étude largement commentée ce soir. Merci à vous Raymond Depardon d'être resté 2 heures avec nous. Désolé pour ceux dont on a pu prendre les appels, ils étaient nombreux ce soir, mais c'est malheureusement fini pour ce soir. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la technique ce soir, Juliette Delperroux, Théo Gomard, Éric Morin, Michel Bézic. Merci aussi à Jimmy Bourquin, à Djoubaka et aux standardistes de l'émission.